OK, on va commencer notre 62e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va regarder ce soir le 19e siècle, la fondation de quatre contrefaçons du christianisme. On avait regardé la première la semaine dernière, les Adventistes du 7e jour. Et cette semaine, on va regarder les témoins Jéhovah. Alors, on le sait, les contrefaçons du christianisme authentique ont existé à toutes les époques. Alors, on en a examiné une la semaine dernière. On regarde les témoins cette semaine, les témoins de Jéhovah. Il va nous rester ensuite à regarder l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, donc les Mormons, et aussi la science chrétienne de Mary Baker Eddy. Alors, on va étudier très brièvement comment elles furent fondées, quelles sont leurs principales croyances, une idée de leur importance et de leur influence, ainsi que la dénonciation et la réfutation de leurs principaux faux enseignements. On sait que le malin est le singe de Dieu et qu'il est le maître de la contrefaçon. Alors, aujourd'hui, on commence avec les témoins de Jéhovah. J'ai trouvé que Wikipédia, dans son article pour les présenter, faisait un bon travail. Alors, on va tout simplement lire ce qu'ils nous disent sur les témoins de Jéhovah. Alors, ils disent, les témoins de Jéhovah forment un mouvement prémillénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme. Ils sont issus d'un groupe né aux États-Unis dans les années 1870, connu sous le nom de « Étudiants de la Bible », donc c'était « Students of the Bible ». En 2015, le mouvement revendique plus de 8,2 millions de membres actifs dans le monde entier. Par ailleurs, plus de 19 millions de personnes pratiquants et sympathisants confondus ont assisté à leur célébration annuelle qu'ils appelaient le « Mémorial de la mort du Christ ». Alors, la direction du mouvement est exercée par un collège central, garant de l'ordre théocratique et de l'enseignement. Il faut éditer à cet effet, pour la société Watchtower, de nombreuses publications. Il fait éditer, c'est-à-dire, telles que les revues La Tour de garde et Réveillez-vous. Alors, les témoins de Jéhovah sont connus principalement pour leur prédication de porte à porte, et l'importance qu'ils donnent à la Bible, qu'ils considèrent comme étant la parole de Dieu. On reviendra un petit peu sur cette notion-là tantôt. Alors, ils sont de tendance prémillénariste. Ils annoncent depuis les années 1870 l'intervention imminente de Dieu dans les affaires humaines lors de la bataille d'Armageddon et ont pour objectif l'établissement du royaume de Dieu sur terre, seule solution aux maux de l'humanité, selon eux. Selon leur doctrine, Jéhovah est le nom personnel de Dieu et faire connaître ce nom est primordial pour eux. Ils sont aussi restaurationnistes, c'est-à-dire qu'ils croient que Dieu a restauré le véritable christianisme par leur intermédiaire. De ce fait, ils sont très critiques envers les autres religions qui, pour eux, font partie de Babylone la Grande, organisation de Satan, décrite comme l'empire mondial de la fausse religion. Alors, tout le monde, excepté eux, sont dans la Grande Babylone. Alors, ils se veulent aussi politiquement neutres et refusent d'accomplir un service militaire. Alors, les témoins de Jéhovah sont régulièrement accusés d'être une secte dans le sens d'organisation à dérive sectaire par les associations antisectes et les médias. Ils sont aussi qualifiés comme tels par les sociologues, mais selon des critères moins polémiques. Ils sont l'objet de controverses autour de leur refus des transfusions sanguines, même lorsqu'un pronostic vital est engagé, et de leur isolement social et de leur gestion des affaires de pédophilie en interne. Il semble qu'ils en ont beaucoup, d'après ce que j'ai lu sur le site web, là. Alors, la création du mouvement, les témoins de Jéhovah sont issus d'un mouvement connu sous le nom d'étudiants de la Bible, qui a lentement pris forme à partir des années 1870 sous l'impulsion de Charles Taylor Russell. On sait qu'il était aussi très influencé par les enseignements des Millérites qu'on a vu la semaine dernière, de Miller, des Adventistes du septième jour, dont ils ont hérité plusieurs enseignements qui viennent des Alors, j'ai marqué les trois principaux outils avec des images. Bien entendu, ils se servent exclusivement des Saintes Écritures, traductions du Monde Nouveau, mais ça, c'est récent. Au début, ils utilisaient la King James, ils utilisaient d'autres versions, ils acceptaient d'autres versions, mais depuis quelques années, ils ont tellement de problèmes à expliquer certains versets que là, ils ont fait leur propre version. On va regarder un petit peu tantôt ce que certains spécialistes de la traduction biblique, des érudits hébreux et grecs, pensent de cette traduction-là. Bien entendu, ils se servent aussi de la tour de garde et ils se servent aussi du magazine, la revue Réveillez-vous. Alors, on va parler un petit peu des trois, leurs trois outils. Alors, la traduction du Monde Nouveau des Saintes Écritures est une traduction de la Bible en langue moderne, éditée et utilisée par les Témoins de Jéhovah. En 2013, les Témoins de Jéhovah annoncent qu'elle a atteint un tirage total de plus de 208 millions d'exemplaires. C'est énorme. En 130 langues. Elle fait, bien entendu, l'objet de critiques à cause de certains choix de traduction. Beaucoup d'érudits et de théologiens chrétiens la considèrent comme un modèle de malhonnêteté. Selon Andrew Holden, les théologiens académiques qui ont une formation de biblistes estiment en général que la TMN, ou Traduction du Monde Nouveau, traduit de façon inexacte certains versets de la Bible. Ainsi, les docteurs John Hankerbird et John Weldon cite plusieurs spécialistes qui pensent ainsi, dont le docteur Robert Countess, qui estime que la TMN a lamentablement échoué pour ce qui est de ne pas laisser les considérations doctrinales influencer la traduction, ajoutant que la traduction des Écritures grecques chrétiennes doit être considérée comme un travail radicalement biaisé, voire carrément malhonnête à quelques endroits. Le professeur Edmund Gross, selon lequel la TMN viole ou ignore les règles de la grammaire. Le professeur Anthony Hokema, docteur en théologie, qui estime qu'il s'agit d'une traduction falsifiée. Et le docteur Julius Menti, qui qualifie le Nouveau Testament de la TMN de distorsion plutôt que de traduction. Outre ces exemples, on peut citer encore d'autres spécialistes qui ont critiqué la TMN, tels que le docteur en théologie Harold H. Raleigh, qui a dit que cette traduction est un brillant exemple de la manière dont la Bible ne devrait pas être traduite, et ajoute qu'elle est une insulte à la parole de Dieu. Et aussi Henry Hayde, qui considère la traduction comme un travestissement volontaire de la sainte parole de Dieu. Alors, ceux qui désirent approfondir le sujet de la malhonnêteté de la traduction peuvent trouver beaucoup de renseignements sur le site InfoSec. Je vous ai mis l'adresse. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent, allez voir vraiment des exemples. Sur ce site InfoSec-là, ils donnent beaucoup, beaucoup d'exemples où on prend des versets et on leur fait dire des choses que ça ne dit absolument pas. Et c'est vraiment très détaillé, là. Alors, si quelqu'un n'est pas convaincu, juste par les citations des spécialistes, il peut aller voir par lui-même. Alors, on va parler de un autre de leurs outils, la tour de garde, qu'ils appellent en anglais « The Watchtower », est une revue internationale créée en 1879. C'est l'un des magazines distribués par les Témoins de Jéhovah, on le sait. Il constitue l'organe principal d'enseignement de leur organisation. Il est publié et diffusé par la société Watchtower, société Tour de garde, c'est la revue la plus diffusée du monde, imaginez-vous. Quand même quelque chose. Hein? Elle est disponible en plus de 254 langues, en version écrite, audio, numérique, ainsi qu'en de nombreux langages des signes. Certaines langues sont disponibles aussi en braille. On va parler de leur troisième outil, Réveillez-vous, donc Awake en anglais, est un magazine édité encore une fois par les Témoins de Jéhovah, traitant de sujets généraux sous l'angle du message biblique tel que compris par eux. Alors, je pense qu'ils se servent surtout de la tour de garde dans leur réunion pour instruire. Tout le monde lit la même chose la même semaine en même temps. Et ils se servent plutôt de Réveillez-vous pour. Ça parle de sujets politiques et toutes sortes de choses qui se servent quand ils passent du porte-à-porte. Il est généralement associé à la tour de garde. Les deux fonctionnent ensemble. Alors, c'est la deuxième revue la plus utilisée au monde après la tour de garde. Alors, Réveillez-vous est publié en 85 langues avec plus de 57 millions d'exemplaires mensuellement. Imaginez-vous, c'est énorme. Le siège social à New York, c'est une des plus grosses imprimeries du monde. C'est vraiment énorme. Alors, ils ont beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Alors, la prochaine section, j'ai voulu parler surtout des principales déviations théologiques des Témoins de Jéhovah. Alors, on va y aller rapidement quand même, sur les principales doctrines. Qu'est-ce qu'ils croient sur les principales doctrines? Alors, on va commencer par la doctrine de Dieu. Selon eux, la doctrine de la Trinité était digne du Moyen Âge, et selon eux, elle aida à former cette époque. Ils affirment que la doctrine de la Trinité est absurde. Ils enseignent que Dieu a été un être unique de toute éternité, n'a point été révélé et n'est point connu. Son égal, qui eût pu le révéler, n'a jamais existé. Alors, on sait que ça contredit les Écritures, pas à peu près, là. Alors, ils disent que la doctrine de la Trinité est une doctrine de démons. Imaginez-vous, c'est pas des petites affaires. Alors, bien sûr, pour chacun de leurs affirmations, de leurs faux enseignements, on va regarder 3 ou 4 versets, mais jamais plus que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a juste 3 ou 4. Il y en a des centaines, des dizaines, et on n'ira pas les voir toutes, mais il n'y a rien de plus facile que d'aller dans les Écritures que de regarder la quantité de versets qui parlent, qui réfutent leurs affirmations. Alors, de Matthieu 3, versets 16 à 18, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors que c'est clair, juste dans ce texte-là, il y a les trois personnes de la Trinité qui sont là. Jean 1:1, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors justement, leur traduction traduction du monde nouveau, là, c'est vraiment des traductions malhonnêtes dans Jean 1:1. Acte 5, versets 3 et 4, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Puis il parle du Saint-Esprit. Alors, et il y a plein d'autres versets. Alors, on pourrait fournir aussi une multitude d'autres versets pour étayer cette vérité-là. Maintenant, sur la doctrine de Jésus-Christ. Alors, leur enseignement dit que l'homme Jésus est mort, puis qui est mort pour toujours. Jésus, selon eux, était un homme, ni plus ni moins. Son existence humaine se termina à la croix. Il était nécessaire que l'homme Jésus mourût, et tout aussi nécessaire qu'il ne vécut plus jamais sur la terre, mais qu'il resta mort en toute éternité. Avant que notre Seigneur vînt sur la terre, il était une création angélique. Il était l'archange Michel, selon eux. L'homme Christ ne ressuscita jamais des morts, selon eux. L'homme Christ Jésus souffrit dans le sens le plus complet la destruction éternelle, mais nous en savons rien de ce qu'il advint du corps de Jésus et s'il fut dissous en gaz ou non, personne ne le sait. Voyez-vous, ils prennent des... ça peut démontrer que quand les gens se laissent conduire par une revue, plutôt que par les Écritures elles-mêmes. Puis en plus, si les Écritures qu'ils ont en main, c'est faussé, alors c'est normal qu'après quelques années, ils deviennent complètement déboussolés. Alors la réfutation scripturaire, on peut lire dans Hébreux 1, versets 1 à 6, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. On parle de Christ, puis on parle que des anges l'adorent. Il ne peut pas être un ange lui-même, parce que les anges n'adorent pas des anges. Luc 24, versets 39 à 46, et ici c'est Jésus qui parle, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Alors, tout à l'heure, il disait qu'il n'était jamais ressuscité, qu'on ne savait pas ce que son corps... Alors, le texte des Écritures elles-mêmes nous disent que les apôtres... Et en disant cela, verset 40, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Maintenant, bien entendu, quand tu as une erreur à quelque part, ça suit tout le long. Alors, on a sur la doctrine du Saint-Esprit. Il enseigne que le Saint-Esprit est une influence ou une puissance émanant de Dieu. Ils affirment la non-personnalité du Saint-Esprit. Alors, selon eux, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Alors, réfutation scripturaire, Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Acte 2, versets 1 à 4. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, on pourrait donner énormément plus de preuves scripturaires sur la doctrine du Saint-Esprit. Bien entendu, pour réfuter les enseignements des témoins de Jéhovah sur le sujet. Et on va regarder ce qu'il dit sur le péché. Alors, leur enseignement, selon eux, la mort, la fin de l'existence, est le salaire du péché. Alors, selon eux, pendant le millénium, l'Esprit ressuscitera l'esprit de l'homme, et il lui sera donné encore un second jugement pour acquérir la vie éternelle. Actuellement, selon eux, l'homme ne meurt pas pour son propre péché, mais il meurt pour celui d'Adam. Imaginez-vous, le péché, il meurt pour Adam, et durant le millénium, il va avoir une deuxième chance. Alors, ce ne sera qu'au jour du millénium, ou jour de la rétribution, que chaque homme mourra pour son propre péché. Alors, réfutation scripturaire, 1 Jean 5, 17, « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et je dirais un des versets forts, c'est vraiment Hébreux 9, 27, parce que les autres, ils disent que les hommes vont être jugés dans le millénium. Alors, c'est parce qu'ils vont être déjà morts. Alors il y a une contradiction. Et ici, ça dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. après quoi vient le jugement. Maintenant, la doctrine de la rédemption, selon eux. Alors, selon eux, la rançon payée par Jésus-Christ ne garantit nullement aux hommes la vie éternelle. Pas plus qu'une bénédiction spéciale. Mais par contre, elle leur donne un second temps d'épreuve après cette vie pour obtenir la vie éternelle. Alors, selon eux, une vie sacrifiée ne pourrait jamais sauver qu'une autre, une seule autre vie, pas une de plus. Alors, ils disent que ça pourrait sauver juste une vie, pas plus qu'une. Alors, la rédemption fut accomplie pour le premier Adam. Alors, la pénalité du péché, selon eux, ne consiste pas dans la douleur et la souffrance de la mort, mais dans la fin complète de l'existence, et c'est là le châtiment du péché. La rançon payée par Jésus-Christ n'a pas pour but de considérer les pécheurs comme des saints et de les faire entrer dans la félicité éternelle. Elle libère simplement le pécheur qui se repent de sa première condamnation et le place au bénéfice d'une seconde épreuve dans une autre vie pour lui permettre d'obtenir la vie éternelle. Afin qu'Adam puisse revivre pour l'épreuve finale qui aura lieu au millénium, Christ sacrifia sa vie. Alors pour eux, Christ a donné sa vie pour Adam. Alors la souffrance n'a joué aucun rôle dans cette rançon. La chose nécessaire était la mort de Christ afin que par elle, Adam pût recouvrer son existence. On va regarder quelques versets, Jean 1, 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Matthieu 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Romains, chapitre 3, verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, et ça continue, à Apocalypse 5, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et bien entendu, toutes les doctrines sont importantes quant à leur réfutation, mais la doctrine du salut, bien entendu, celle-là est primordiale. Les autres aussi, d'ailleurs. Alors, leur enseignement, eux autres, ils disent que à tous ceux qui ont subi la mort en conséquence du péché d'Adam, Jésus-Christ offrira la vie parce qu'il a payé le prix de leur libération de la justice divine. Personne, selon eux, n'obtient l'immortalité par une nouvelle création ici-bas. Selon eux, l'homme, par sa présente expérience du péché et sa terrible punition, sera amplement averti. Et si, en raison de sa rançon payée par Jésus-Christ, il lui sera accordé une autre épreuve, nous pouvons être sûrs que seuls ceux qui lui seront encore rebelles, le sachant et le voulant, subiront la punition d'une épreuve subséquente. Cette dernière épreuve décidera si nous pourrons ou ne pourrons pas avoir la vie éternelle. Alors, réfutation scripturaire, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Éphésiens 2, 8, 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jean 6, verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 20, verset 31, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Maintenant, aussi, sur la doctrine de la rétribution ou de l'enfer, alors leur enseignement, c'est que tous les hommes qui meurent sans avoir accepté Christ pour leur sauveur auront une autre occasion de se convertir. On leur prêchera encore une fois l'Évangile, et s'ils ne l'acceptent pas, alors ils seront détruits. La seconde mort consiste en la destruction de l'être. Dieu est trop bon pour maintenir éternellement une existence inutile et malfaisante. Il est insensé, selon eux, de penser que Dieu voudrait maintenir à jamais une existence dans les tourments. Encore une fois, selon eux, le millénium doit amener la restauration de toute l'humanité, de tout ce qui est terrestre depuis Adam et dès la création. Le plan de Dieu est de donner à toute l'humanité une pleine connaissance de la malédiction du péché, afin que lorsque la bénédiction se répandra sur tous les hommes, ils puissent constater que le péché n'est jamais profitable à personne. Si, après une seconde épreuve accordée à l'âme humaine, celle-ci persiste encore dans la désobéissance, il n'y aura plus de pardon pour elle, elle subira la seconde mort. Mais pour autres, la seconde mort, c'est la destruction éternelle. C'est juste l'anéantissement. Alors, la réfutation scripturaire, Matthieu 25, 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Apocalypse 20, versets 14 et 15, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Daniel 12, 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Matthieu 22, verset 13, « Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On a regardé un peu les grandes doctrines en général. Maintenant, il y a eu d'autres dérives importantes. Par exemple, leur prophétie concernant la fin du monde. Alors, la fin du monde est l'un des événements le plus prophétisé par les témoins de Jéhovah. Les dates annoncées par leurs différents présidents au moyen de leurs publications sont, regardez bien les dates, 1874, 1914, 1918, 1925, 1926, 1975, et d'une manière indirecte, ils ont fait des allusions pour les années 90. Alors bien sûr, elles se sont toutes avérées fausses. Qu'est-ce que les Écritures nous disent qu'il y a quelqu'un qui fait une fausse prophétie? Deutéronome chapitre 18, versets 20 et 22. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » C'est bizarre pareil, hein? Après 6-7 reprises, les gens suivent encore. Ils trouvent des pirouettes, des mensonges, des explications. Mais à chaque fois qu'ils se trompent, il y a un grand nombre de témoins qui sortent, mais ils finissent, il y en a d'autres qui ont embarqué, ça continue. Alors, bien entendu, on connaît tous leur question des transfusions sanguines. Beaucoup de témoins de Jéhovah ont refusé une transfusion de sang en croyant que c'était la volonté de Dieu. Combien ont perdu ainsi la vie? Il n'y a jamais eu de chiffre publié sur le nombre de témoins de Jéhovah qui sont morts. Cependant, le docteur Jerry Bergman et David Reed sont arrivés à la conclusion qu'il en meurt entre 450 et 1150 par année. Et l'information vient du site Vigisect. Alors, on parle entre 500 et 1000 à peu près. Là. C'est énorme. Et j'ai terminé par vous, le site que j'ai utilisé donne InfoSec. Le site InfoSec donne énormément d'informations sur les témoins de Jéhovah. Il y en a quasiment ad nauseam. Quelqu'un qui veut étudier le sujet, il y en a, il y en a plein. Et il y a un nommé Pierre Audon qui a publié un livre, un e-book. On peut le lire en ligne ou on peut le télécharger en PDF ou dans un autre format qui donne à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir sur les témoins de Jéhovah. Alors, on peut se procurer ce livre-là. Il est gratuit. Et on peut soit le lire en ligne ou soit le télécharger. Ça s'appelle « Les témoins de Jéhovah, les dessous de l'histoire ». Alors, ce livre peut être vraiment lu en ligne ou téléchargé. Alors, il est richement documenté et jette une lumière définitive sur l'organisation mondiale terriblement opaque des témoins de Jéhovah. Alors, je vous ai mis l'adresse web pour ceux qui nous écoutent. Ils pourront toujours aller sur le document et aller le télécharger si ça vous intéresse. J'ai mis trois applications concernant cette brève étude des témoins de Jéhovah. La première, rendons grâce au Seigneur d'avoir permis la préservation providentielle des manuscrits de la Bible. C'est une grande bénédiction que de jouir de l'utilisation d'une traduction fidèle des Saintes Écritures. Deuxième application, connaissons bien les erreurs et les faux enseignements des témoins de Jéhovah. Notre destinée éternelle en dépend. Troisième application, les sectes sont dangereuses. Sachons les dénoncer, les réfuter et amener leurs adhérents à la lumière du véritable Évangile. Que notre grand Dieu de vérité soit éternellement béni et adoré. Amen.